Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, insécurité au Sahel. Des élèves ont battu le pavé hier à Djibo pour exiger la réouverture de leur salle de classe. La crise sécuritaire ayant entraîné la fermeture de milliers d'écoles à travers le Burkina. L'opération Sauvons Djibo et les PDI lancée par de jeunes citoyens burkinabais a permis de récolter 400 tonnes de vivres ainsi que des vêtements. Selon les initiateurs, ces vivres seront acheminés vers Djibo et d'autres villes en difficulté. Affaire Emmanuel Zongrana, des sympathisants menacent de descendre dans la rue pour réclamer la libération du lieutenant-colonel, détenu notamment pour tentative de déstabilisation des institutions. Et puis on parlera de l'impact de l'insécurité et de l'instabilité politique au Burkina Faso sur l'économie avec notre invité du jour, le professeur Mahamadou Diarra, agrégé des facultés des sciences économiques à l'université Norbert Zongo. Bonjour et bienvenue. Une fois de plus, si dans certaines grandes villes du Burkina, comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école depuis une semaine, dans certaines localités, des centaines de milliers d'élèves attendent désespérément la réouverture de leur salle de classe. C'est le cas de Djibo, où des élèves se sont mobilisés hier mardi pour exiger la réouverture des classes pour la rentrée scolaire 2022-2023. Certains sont en classe et les autres observent. Pouvait-on lire sur une pancarte des élèves? C'est au Haut Commissariat qu'ils se sont dirigés pour remettre leurs doléances au préfet Marou Ilboudo, président de la délégation spéciale. Cette doléance comprend 4 points. En plus de la réouverture des classes, les élèves veulent le rétablissement des réseaux téléphoniques, la sécurisation de la province et celle de l'axe Djibo-Kongoussi. Si rien n'est fait, les élèves menacent de sortir les jours à venir pour se faire entendre. Selon le gouvernement, à la date du 30 avril dernier, 4148 salles de classe étaient fermées du fait du terrorisme. Et pour venir en aide aux populations sous le joug des groupes armés, Alain Traoré et ses collaborateurs ont lancé l'opération Sauvons Djibo et les PDI. 400 tonnes de vivres ont été récoltées pendant 3 jours dans 10 villes du Burkina Faso suite à une alerte lancée le 7 octobre dernier, un appel patriotique qui vise à alimenter Djibo et les déplacés internes. Des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et même des non-Burkinabés ont fait des dons en nature et en espèces pour secourir les populations victimes du terrorisme. Cette opération de collecte a été fructueuse selon les initiateurs qui ont fait le point des contributions hier mardi à Ouagadougou, Chalda et Faouzia Zongo pour plus de précisions.
Sauvons Djibo et les personnes déplacées internes est un appel patriotique qui est né des événements du 30 septembre, explique Alain Traoré dit Alino Faso, un des initiateurs de l'opération Sauvons Djibo.
Si on a la capacité comme ça de se mobiliser pendant que des villes comme Djibo, Séba et puis Solane et tout ça lancent des SOS parce qu'il y a la famine là-bas, c'est qu'on a la même capacité également de se mobiliser pour collecter des vivres. De jeter un regard vers Djibo qui est en train de lancer des alertes depuis, Séba qui est en train de lancer des alertes, Solane qui est en train de lancer des alertes, Titao qui est en train, Tama également. On a la possibilité également d'avoir la même mobilisation pour pouvoir donc cotiser des vivres et puis aider nos frères.
Pendant 3 jours, des bonnes volontés ont fait parler leur cœur à travers 10 villes du Burkina Faso. Des vivres, des denrées alimentaires et des vêtements ont été collectés par plus de 200 bénévoles.
Pour la ville de Ouagadougou, nous sommes à peu près à 250 tonnes en 72 heures. Pour la ville de Bobo-Dioulasso, on avait un seul site, le Théâtre de l'Amitié. Avec M. Lamine Sanou et toute son équipe là-bas, ils sont à peu près à 30-35 tonnes sur Bobo-Dioulasso. Après, dans les 8 autres villes, l'effervescence n'a pas été grande, mais c'est quand même majeur parce que sur ces 8 villes-là, on est à peu près à 10 tonnes, 10 à 15 tonnes pour les 8 autres villes. De façon prévisionnelle, à la fin, avec ce qu'ils sont en train d'envoyer et leurs prévisions, on pourrait se retrouver au bas mot avec 400 tonnes.
En plus des vivres, les initiateurs ont reçu des transferts d'argent d'environ 2 millions de francs CFA. Raïssa Kampore, coordonnatrice générale de l'opération Sauve Djibo.
Donc on n'avait pas de budget, c'était budget zéro au début. Et les bénévoles qui venaient, il fallait leur donner de l'eau, souvent manger toute la journée, les gens qui viennent. Donc on s'est retrouvés face aux réalités et on s'est dit, il faut forcément qu'on ouvre un numéro Orange Money pour que les gens puissent contribuer. On a eu près de 2 millions de contributions dans les Orange Money, qui nous ont permis de pouvoir louer tout ça. Et c'est avec cet argent-là qu'on est en train de faire venir ce qu'il y a dans les régions. C'est avec cet argent que nous allons gérer beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et si ça reste, nous allons payer encore des vivres pour ajouter.
Pour la répartition, 100 tonnes de vivres iront à Djibo et les autres zones à fort défi sécuritaire recevront à peu près 40 tonnes.
La ville de Djibo est sous blocus depuis plusieurs mois. 70 tonnes de vivres avaient été acheminées le 7 octobre par voie aérienne par l'armée burkinabé, soit plus de 10 jours après l'attaque d'un convoi de ravitaillement à Gaskende, où 37 personnes, dont 27 militaires, avaient perdu la vie. Et avec son reportage intitulé « Axe d'Ablo-Kaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes », la journaliste burkinabé Mariam Ouedraogo du journal Sidoya remporte le prix de presse écrite de la 29e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Mariam Ouedraogo s'est dit très honorée d'avoir reçu ce prestigieux prix qui récompense ceux qui sacrifient leur vie pour informer les autres. Elle décide de dédier ce prix au Burkina et l'Afrique tout entière. Elle a particulièrement eu une pensée pour toutes ces survivantes de viols commis par des terroristes du Mali, du Niger et du Burkina qui, faute de prise en charge adéquate, attendent dans le couloir de la mort avec des ventres et des dos chargés de grossesses et de bébés lourds à porter. À Ouagadougou, des jeunes menacent de descendre dans la rue. Eux réclament la libération pure et simple du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, l'ancien commandant du 12e régiment d'infanterie commando basé à Ouaigouya, a été arrêté et incarcéré le 10 janvier dernier, accusé notamment de tentative de déstabilisation. Moumouni Tamboura.
Le mouvement a lancé un appel à la population pour une mobilisation en vue des actions à venir. Si la promesse des nouvelles autorités d'examiner le dossier Zungrana n'est pas suivie d'effet de libération, Boris Guissou et ses camarades menacent d'ailleurs de descendre dans la rue s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, ancien combattant du 12e régiment d'infanterie commando, basé à Ouaigouya, a été arrêté et placé en détention le 10 janvier 2022. Il est accusé de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. 9 autres personnes ont été mises en examen et plus de 30 témoins auditionnés. Présenté au juge le 22 septembre, le dossier du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été mis en délibéré pour le 27 octobre 2022. Son avocat, maître Paul Kéré, avait indiqué que la place de son client est au front et non à la prison militaire. Le 2 octobre, le MPCED annonçait à la télévision nationale que la lumière sera bientôt faite sur le cas du lieutenant-colonel Zungrana.
Situation nationale, Herman Yamyogo, président de l'UNDD, appelle les autorités de la transition à prendre leurs responsabilités et surtout à aller vite sur les axes prioritaires des Burkinabés, à savoir la sécurité et la réconciliation nationale. L'annonce a été faite hier au siège du parti à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. On en sait un peu plus avec Valérie Guéry.
Ibrahim Traoré doit rester à la tête de l'État pour diriger la transition. C'est l'avis de maître Herman Yamyogo, président de l'UNDD, qui, après avoir donné sa lecture sur la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, demande au MPRCR2 de prendre toutes ses responsabilités parce que lorsqu'on fait un coup d'État, on l'assume.
Nous disons à l'équipe qui est là qu'il faut heureusement être toujours dans le MPCR avec les mêmes principes. Nous disons d'assumer et de ne pas faire des ouvertures, de ne pas faire des consultations excessives qui vont ramener ce qu'eux-mêmes veulent combattre, c'est-à-dire la politisation des affaires. Ils doivent assumer jusqu'au bout. C'est à eux de mettre en place leurs organes. C'est à eux de dire s'ils veulent un civil ou un militaire. Mais ce n'est pas à nous. En tout cas, nous, à l'UNDD, on estime que la priorité, c'est la sécurité, c'est le pays qui coule.
Et cette lutte contre le terrorisme ne peut être possible sans la réconciliation nationale, surtout au niveau des forces de défense et de sécurité, à en croire maître Herman Yamyogo.
La plus importante, c'est la réconciliation mais en commençant par la réconciliation au sein de l'armée. Il ne faut pas se faire des illusions. Nous vous avons toujours parlé franchement. La réconciliation ne concerne pas que les politiques. La réconciliation concerne aussi plusieurs secteurs et notamment l'armée.
Pour le président de l'UNDD, en plus de la réconciliation nationale, il faut lutter contre la malgouvernance. Pour cela, il faut des réformes et des refondations pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs.
Les secrétaires généraux des ministères se sont retrouvés hier pour échanger autour des questions relatives à l'expédition des affaires courantes. Cette deuxième rencontre de l'année a pour but de renforcer la collaboration entre les ministères et institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. Elle s'est tenue hier mardi 11 octobre au ministère des Affaires étrangères. Irène Nikiema et Abdulaziz Zoulabou pour le compte-rendu.
Les secrétaires généraux des ministères ont, depuis l'avènement du coup d'État qui a valu la dissolution du gouvernement, la charge de l'expédition des affaires courantes de leur département. Pour lever des zones d'ombre sur ce qui est attendu de leur part, cette rencontre était nécessaire. Jacques Dingara, secrétaire général du gouvernement.
Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu opportun d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc d'échanger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence Monsieur le Chef de l'État, d'échanger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses.
Le chef de l'État l'a rappelé au cours de sa rencontre avec les 10 secrétaires aux premières heures de sa prise du pouvoir. L'objectif est d'aller plus vite dans un contexte où tout est urgent. Dans le même sens, les actions à mener au cours de cette semaine sont également définies dans cette rencontre. Jacques Dingara.
Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-sylvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières.
Ce cadre de concertation entre secrétaires généraux de ministères et institutions a été initié le 1er septembre 2022 par le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres.
Tout autre sujet, l'Université Aube Nouvelle a organisé une rencontre avec ses nouveaux étudiants hier à Ouagadougou. Objectif, leur faire part du règlement intérieur et leur donner des conseils pour une rentrée universitaire réussie. Une prise de contact marquant le début des activités académiques et universitaires. Une occasion pour la direction et le corps professoral d'inviter les étudiants au travail et à la discipline, gage de toute réussite. Le compte-rendu de Ibrahim Niaoné et Yaya Diomandi.
Le baccalauréat en poche, les nouveaux étudiants sont désormais confrontés à la vie universitaire, ce qui pourrait susciter des inquiétudes pour certains. Afin donc de les mettre en confiance avant l'attente du cursus académique, l'Université Aube Nouvelle tient cette cérémonie de rencontre. Le professeur Philippe Sankara est le recteur de l'Université Aube Nouvelle.
Donc il est de notre devoir de pouvoir les rencontrer et leur dire, avant qu'ils n'entrent en classe, quels sont leurs devoirs et leurs droits. Surtout, leur montrer les bonnes manières, les bonnes pratiques pour pouvoir réussir leur année scolaire. Et les mettre aussi en contact avec l'administration, ceux avec qui ils vont en quelque sorte discuter pendant toute l'année. D'abord, les bonnes pratiques, c'est dire aux étudiants que nous sommes dans un établissement ordonné et qu'il faut de la discipline. Et c'est dans la discipline qu'on peut réussir. Aux étudiants, que l'université est aussi leur seconde famille.
Pour être utile à la nation, tout se prépare dès maintenant. Donc il faut allier ardeur et rigueur dans les études. Cheikh Ahmed Compaoré est le délégué général des étudiants.
Je l'ai dit en quelque sorte que ce qui les attend est vraiment très énorme. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en étant à l'université, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts pour pouvoir bosser. Là, c'est une fausse histoire. C'est à l'université même qu'il faut qu'on commence à bosser réellement. C'est à l'université même qu'il faut qu'on prenne réellement confiance. Et c'est à cette période-là qu'on prépare notre avenir. Donc ce que je peux leur dire, c'est vraiment de redoubler d'efforts, de bosser, de prendre courage et afin de rendre fiers leurs parents et rendre fiers également la nation burkinabè en bossant.
Les étudiants se réjouissent de la tenue de cette plateforme d'échange avec l'administration et se disent prêts à se conformer aux différents règlements émis par l'université. Habiba Nikiema est une nouvelle étudiante.
Je suis contente. Venir à l'université, ce n'est pas permis à n'importe qui d'être à Aube Nouvelle. Je suis très contente d'être ici. Nous sommes les leaders de demain, donc on n'a pas le choix. On doit s'attendre à tout, on doit combattre, se battre pour faire le monde de demain.
L'université Aube Nouvelle, créée en 1992, possède 30 années d'expérience au service de l'enseignement supérieur au Burkina. Elle est présente à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et dispose de plus d'une quarantaine de filières de formation.
En bref, le conseil d'administration de l'université Jean Moulin a confirmé mardi la décision de déchoir Blaise Compaoré de son titre de docteur honoris causa. La décision a été prise à l'unanimité, informe le président de l'université, Éric Caparneau, qui rappelle que l'ancien président du FASO n'incarne plus les valeurs prônées par son institution du fait de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat dans l'affaire Thomas Sankara. Un mot de l'actualité internationale, le programme des Nations Unies pour le développement s'est joint mardi au concert d'institutions et d'organisations caritatives avertissant qu'une grave crise de la dette est en train de s'installer dans les régions les plus pauvres du monde. Dans un nouveau rapport, le PNUD estime que 54 pays représentant plus de la moitié des personnes les plus pauvres du monde ont désormais besoin d'un allègement immédiat de leur dette pour éviter une pauvreté encore plus extrême et leur donner une chance de faire face au changement climatique. L'appel du PNUD arrive juste avant la réunion que tiendront cette semaine à Washington les ministres des Finances du G20 dans le cadre des rencontres annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et puis accusé de mener un méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie au mépris des droits humains et de l'environnement, Total Energy comparaît ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris. Le géant pétrolier et gazier est sommé par 6 ONG de respecter la loi qui lui impose un devoir de vigilance sur ses activités dans le monde entier. Cette loi française dite de Rana Plaza, du nom de l'immeuble qui s'est effondré en 2013 au Bangladesh où 1000 ouvriers avaient trouvé la mort dans des ateliers de confection au service de grandes marques occidentales, oblige les multinationales à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement chez leurs sous-traitants et fournisseurs étrangers par l'intermédiaire d'un plan de vigilance. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebego. Merci de votre aimable attention.
Radio Omega, l'info en direct.